So we're going to resume with the last segment of the afternoon, which is going to take us back in a way across the Atlantic. It is my pleasure to welcome for the first talk Elisa Capdevila, who received her doctorate in 2012 from Institut d'études politiques, aka Sciences Po Paris, writing her dissertation on American artists in Paris from 1945 through the late 1960s. Her research focuses mainly on international artistic relations during the Cold War, as well as the dissemination and reception of American art in Europe. She was previously also a Fox International Fellow at the Macmillan Center for International and Area Studies at Yale University. She is currently a lecturer at the Sciences Po and Université de Versailles-Saint-Quentin, where she is affiliated with the Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, aka CHCSC. Today, she will present on Effacer le séjour à Paris, les réécritures biographiques des Américains expatriés à Paris dans les années 1950-1960. Please welcome Elisa.
Bonjour, je ne sais pas si c'est bon là le son, oui, impeccable. Merci tout d'abord pour cette présentation, merci pour l'invitation et l'organisation, Sarah particulièrement, et la Terra Foundation. Je vais vous présenter le sujet, la réécriture ou les réécritures plutôt, ou plutôt même les stratégies de réécriture biographique des Américains expatriés à Paris dans les années 50-60. Donc il s'agit bien peut-être une petite précision en introduction, des réécritures biographiques après leur séjour à Paris, pas durant leur séjour à Paris pour la plupart. Donc la façon finalement dont le séjour à Paris a été traité dans leur biographie. Juste en introduction, le nombre d'artistes en fait américains, donc que j'ai appelé expatriés, mais c'est peut-être un terme d'ailleurs qui mérite d'être discuté dans les années 50, est très difficile à évaluer. Plusieurs centaines probablement, c'est tout ce qu'on a comme chiffre en fait, parce que les sources sont très fragmentaires. Il y a des critiques d'art de l'époque qui parlent de peut-être 300 au milieu des années 50, dont beaucoup vont rester anonymes, d'où la difficulté de les chiffrer. Ils viennent essentiellement à la fin des années 40 jusqu'aux années début des années 50, dans le cadre notamment pour beaucoup du GI Bill qui leur permet d'étudier s'ils le veulent à l'étranger, y compris en France. La fin du GI Bill marque en fait une forme de déclin relatif de cette expatriation américaine à Paris. Donc le GI Bill prend pour ceux pour lesquels il finit le plus tard fin dans l'année 1953. La communauté américaine reste toutefois assez active, assez présente jusqu'au tournant des années 50-60. C'est mieux comme ça. Les raisons des venues, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est pour les présenter brièvement, sont assez multiples. C'est évidemment l'attraction de Paris creusée des mouvements de l'art moderne qui attire la présence de figures mythiques, Picasso, Matisse, finalement pas très loin, Harpe, qui attire ces jeunes gens à la fin des années 40, au début des années 50, une forme de tradition, de grand tour en Europe aussi. À ne pas négliger non plus le coût de la vie inférieur à celui à New York notamment, et la volonté de plus en plus nette en fait pour ceux qui arrivent dans la deuxième moitié des années 50 de s'internationaliser à Paris à un moment où c'est difficile pour eux de le faire à New York en fait. Ce phénomène est assez en fait visible parce qu'il demeure un phénomène collectif jusqu'au début des années 60 et qu'il s'agit pour un certain nombre de séjours assez longs, c'est-à-dire de plus d'un an. Après, on va dire les années 62-63, les Américains en fait continuent à venir à Paris, mais de façon beaucoup plus brève, grâce à l'avion en fait, dans le cadre aussi de séjours beaucoup plus encadrés, si on peut dire, donc d'échanges universitaires qui font juste l'année universitaire. Ils viennent généralement à titre individuel, ce qui marque cette communauté des années 50, c'est vraiment, il me semble, cette dimension collective de leur séjour à Paris. Parmi eux, donc rapidement, hein, certains deviendront célèbres, c'est généralement ceux qu'on cite, Sam Francis, Ellsworth Kelly, Kenneth Nolan, John Mitchell, j'arrêterai la liste ici. Hein. Donc ils deviendront célèbres pour la plupart à leur retour aux États-Unis. Ces artistes réactivent ainsi une tradition d'expatriation. Le terme expatriation n'est pas celui qu'ils revendiquent, mais c'est celui, finalement, on le verra, qui leur est apposé en raison d'une tradition qui existe et qui est antérieure d'expatriation américaine à Paris. Paradoxalement, au moment même où la montée en puissance de New York remet complètement en cause leur séjour, leur motivation de rester, de venir d'abord et surtout de rester à Paris. À leur retour aux États-Unis, ces artistes, particulièrement, je reviendrai là-dessus, les peintres abstraits américains, qui se rattachent à la seconde génération de l'expressionnisme abstrait, vont se retrouver donc sous les feux d'une rivalité croissante entre Paris et New York. D'où ces tentatives que je vais examiner de réécriture biographique qui visent à gommer, à atténuer, voire dans certains cas à effacer complètement, sinon le séjour parisien, du moins son impact sur leur œuvre et leur trajectoire. Ces tentatives ou ces réécritures biographiques, là aussi je reviendrai sur ce point qui me semble important, résultent en fait de l'intervention de plusieurs acteurs, les artistes eux-mêmes, mais encore plus peut-être dans certains cas, leurs galeristes et les critiques qui les défendent. Très rapidement aussi, donc mon analyse se fonde sur une étude prosopographique donc de cette communauté, mais je ne m'attarderai que sur certains exemples. Quelques cas particuliers que j'ai choisis justement parce que j'avais assez de documents pour retracer ces réécritures biographiques. Quatre exemples principaux, donc Lawrence Calcagno, Sam Francis, Al Copley et Bernard Childs, sur lesquels je reviendrai, qui ont en commun, donc qui sont des artistes qui s'inscrivent dans des tendances assez diverses, mais qui ont en commun d'être tous des peintres abstraits, qui arrivent à Paris au début des années 50 et repartent de Paris dans la deuxième moitié des années 50 ou dans les années 60. Très rapidement, je vais revenir dans les deux premières parties, donc dans la première partie sur ce contexte en fait, dans lequel leur séjour à Paris se déroule, pour essayer de montrer les critiques finalement auxquelles ils sont confrontés. Ce qui explique, ce sera ma deuxième partie assez rapide, les critiques qu'eux-mêmes feront à l'encontre de Paris quand ils reviendront aux États-Unis. Et mon troisième point, que j'essaierai de prendre le temps de développer plus, les stratégies de réécriture biographique réellement mises en œuvre à leur retour aux États-Unis. Donc très rapidement, à l'aide de cet exemple principalement, les critiques qui visent l'expatriation à Paris dans les années 50. Elles sont portées essentiellement, on en a une preuve assez nette, dans la presse magazine américaine. Deux exemples principaux. Life Magazine, donc là c'est un article de 1949, assez long puisqu'il fait de mémoire 3-4 pages. Le deuxième, encore plus sévère à l'encontre des expatriés américains, ce sera dans Time Magazine en 1953. Pour vous montrer, en fait, les images sont assez parlantes. On a assez... Je vais essayer de me rapprocher, en fait. On n'a presque plus besoin du texte pour comprendre. Donc, c'est un article sur ces nouveaux expatriés, publié par Life Magazine, qui présente la vie de ces jeunes Américains venus grâce au GI Bill. Le sous-titre, je ne sais pas si vous arrivez à le lire... difficile et assez explicite puisqu'il dit, toutes mes traductions, comme il y avait des textes en français ou en anglais, j'ai choisi de tout dire en français. Donc à Paris, les anciens GIs étudient tout, de la cuisine à l'écriture, et passent leur nuit à débattre dans le café. Autrement dit, ils ne travaillent pas beaucoup. Ce qui est intéressant, la photo est extrêmement parlante, évidemment, vous avez, je pense, reconnu le café de Flore, le nom est mis en évidence, même s'il est à l'envers, sur la photo, avec ces cinq jeunes Américains barbus, qui sont en train de boire quelque chose d'assez suspect, puisqu'on reconnaît là un siphon. Parmi ces nouveaux expatriés qui en fait, profitent du GI Bill pour se la couler douce à Paris, pour le dire dans le ton du magazine, finalement, on a un reportage photo. Donc là, vous avez des photographies publiées toujours par Life Magazine. Cinq vignettes vont représenter ces jeunes Américains dans leurs activités. Il est intéressant de noter que trois d'entre elles concernent des jeunes artistes ou prétendants artistes. Donc vous les reconnaissez, un jeune artiste qui peint au chevalet. on ne sait pas si c'est vraiment d'actualité à l'époque, dans une petite chambre de Bonn, un ami qui est aussi artiste le regarde faire, un autre qui semble en fait directement inspiré d'une scène très connue de An American in Paris, ou qui semble prédater plutôt, dans les rues de Montmartre, donc un artiste américain entouré de petits Français qu'il regarde peindre, et le dernier, donc toujours un jeune artiste américain, qui sur une péniche parisienne. En fait, le ton est assez gentil hein, de l'article, mais très moqueur, vous l'avez compris. On retrouve dans cet article, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, toutes les critiques, des critiques qui sont également sous-jacentes, c'est pour ça que je vous ai mis cette affiche, dans la comédie musicale de Minelli, donc, je suis désolée, en fait, je me suis trompée dans le temps, je voulais juste... Je finis à 38 à peu près, c'est ça? Je suis désolée pour cette interruption.
Oui, c'est ça.
Ouais, désolée. On va retrouver hein, ces mêmes critiques sur un ton assez moqueur, assez gentil, de l'artiste, en fait, on pourrait dire du pseudo-artiste américain, pseudo-peintre. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous souvenez d'An American in Paris, mais Gene Kelly interprète bien cet ancien GI qui reste à Paris. La scène d'ouverture le dit très clairement, donc on a sa voix off qui raconte sa vie à Paris sur des scènes de la vie parisienne. Il dit, voilà, j'avais l'opportunité de rester à Paris grâce au GI Bill, je suis restée, bon, je veux être un artiste, enfin, je ne sais pas trop, mais voilà, essayons. Donc c'est vraiment, en fait, l'image véhiculée par Life Magazine et encore plus, je ne vais pas dans le bon sens, par le Time Magazine en 1953. Donc je n'ai pas l'article original, donc je vous ai juste mis le titre qui est très parlant, donc qui publie en 1953, et là la critique va être encore plus franche, un article toujours consacré là aux Américains de Paris, mais exclusivement aux artistes américains de Paris, donc sous le titre « Go West, Young Men ». En fait, cet article porte sur un épisode très précis. Il relate la colère des jeunes artistes américains installés à Paris suite à l'annulation d'une exposition prévue d'art américain. L'annulation est liée au fait que le jury français avait jugé insuffisante la qualité de l'ensemble des œuvres présentées. L'injonction hein, du Time est sans appel, vous l'avez compris, il est temps pour eux de rentrer, ils ne sont pas les bienvenus à Paris, donc il faut revenir. Il est intéressant de noter la date, 1953, c'est le moment où le GI Bill prend fin et où se pose vraiment la question pour certains d'entre eux de rentrer ou pas, puisqu'ils n'ont plus le GI Bill pour rester, le choix est plus important de rester à Paris. Ce qui est intéressant, ce que ne dit pas ce titre, c'est qu'en fait, si on lit tout l'article, le journaliste ne désapprouve pas du tout les critiques françaises, ce qu'on aurait pu penser. Il ne dit pas du tout que le jury français ne sait pas bien juger l'œuvre de ces jeunes Américains. Au contraire, il reprend ses critiques à son compte, puisqu'il explique avoir pu finalement voir les œuvres rejetées par le jury français, et les juges pour la plupart conformistes, sans originalité. Je le cite, ils jugent que ces Américains essaient trop de pain comme des Européens. La plupart auraient certainement mieux fait de rester chez eux, de se concentrer sur la scène locale et de développer un style propre. Les Américains à Paris, ceux qui choisissent de rester, sont donc très nettement hein, critiqués comme de mauvais artistes qui n'ont pas d'originalité. Et ce manque d'originalité, si on suit le Time, hein, est lié finalement à leur coupure avec leurs racines et leur manque pour cette raison d'authenticité dans leur œuvre. Je passerai plus rapidement, mais je souhaitais juste le mentionner. Le Time Magazine va réitérer 2 ans après avec un article en 1955 consacré cette fois à un artiste pour vous expliquer le deuxième document, Lawrence Calcagno, dont je reparlerai. Qui est un artiste donc, qui est installé à Paris, qui va prendre en fait, qui va devenir un peu le chef de file de ces Américains à Paris en 1953. Il écrit, hein, là vous avez sa lettre écrite, envoyée au Time, pour, en réponse finalement à leur article, pour défendre sa communauté lui-même et ses confrères. Il est aussi à la tête d'un petit comité qui se réunit d'artistes américains qui vont faire en sorte que cette exposition annulée ait finalement lieu. Ce même artiste expose aux États-Unis à la galerie Martha Jackson en 1955, au moment où il rentre aux États-Unis. Et c'est l'occasion d'un article pour le Time, qui est très favorable aux peintres et qui note, finalement, qui interprète le retour de l'artiste fils prodigue un peu de New York comme la preuve ultime du déclin de Paris. Le Time, donc en 1955, très rapidement, explique « Il y avait un temps où tout jeune peintre américain rêvait de faire le pèlerinage à Paris, où il pourrait élaborer son style sous l'influence des grands maîtres français. Aujourd'hui, un nombre croissant d'expatriés américains reviennent à la maison convaincus qu'il n'y a plus de peinture européenne contemporaine méritant d'être imitée. » Donc on est en 1955. Si on résume les critiques qui vont croissante dans cette première moitié des années 50 envers les expatriés américains à Paris, c'est premièrement l'idée que Paris est une fuite pour ceux qui finalement sont des pseudo-artistes, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à être des artistes. Les vrais artistes, eux, restent à New York, s'ils sont américains ou au moins aux États-Unis. Et deuxième critique très importante, Paris est dépassé, ce ne sont plus là où sont les avant-gardes. Donc un jeune artiste ne peut pas trouver une inspiration digne de ce nom à Paris. À cela s'ajoutent, je ne m'attarderai pas là-dessus, des pressions d'origine différente. Certains galeristes, Martha Jackson notamment, qui expose Lawrence Calcagno, font pression sur leurs artistes pour qu'ils reviennent aux États-Unis. Il y a aussi, non négligeable, une pression financière, puisque la plupart de ces artistes ont du mal à vendre en Europe, en France, au moment même où, au moins pour certains d'entre eux, mais un nombre qui ne paraît pas négligeable, se voit offrir des postes dans les universités américaines. C'est le cas de Lawrence Calcagno, à qui sa galeriste, Martha Jackson, tout en lui disant le soutenir dans son choix de rester à Paris, va lui proposer un poste à l'université de Minneapolis pour pallier ses problèmes financiers. Ce qui explique donc un grand nombre de retours, d'une part, et aussi les critiques que vont émettre ces expatriés à leur retour aux États-Unis. Deux aspects en fait ressortent de ces critiques. Je me concentrerai sur le deuxième aspect, mais je voudrais d'abord dire que ces critiques sont parfois en fait fondées, reflètent bien une réalité. Il y a une déception réelle vis-à-vis surtout de la formation parisienne chez un grand nombre de ces jeunes Américains. Une déception qui est aussi liée aux difficultés réelles de la vie quotidienne. Et aussi, il me semble, une volonté d'afficher leur indépendance qui va avec quelque chose d'ailleurs qui a été mentionné ce matin dans une des communications, à une époque où l'image qui prévaut de l'artiste, c'est l'artiste individuel, libre. Donc il ne fait pas bon de reconnaître des influences, notamment parisiennes. Donc il y a derrière ces critiques de Paris une réalité, mais il est vrai aussi qu'on peut les interpréter comme une forme de stratégie, au moins chez certains artistes, et l'amorce de ce qu'on pourra voir dans un dernier point, véritable réécriture biographique. Ces critiques montrent aussi finalement une réticence, peut-être dans certains cas même une peur d'être perçu comme français, comme trop français, parce que passé par Paris. Très rapidement, ces critiques, elles visent d'abord les institutions de formation parisiennes, celles-là même qui les ont accueillies et qui expliquaient en partie leur venue à Paris. La première visée est l'École nationale des beaux-arts, où plusieurs de ces Américains vont entrer, dont l'enseignement est critiqué parce qu'il est jugé extrêmement archaïque et pour une atmosphère aussi très peu accueillante. Un seul exemple, Jack Youngerman, dont je tiens à préciser qu'il est un des rares Américains à avoir effectivement suivi les cours et certainement celui qui a le plus apprécié la formation de l'École des Beaux-Arts. Voilà ce qu'il en dit. Les conditions de travail étaient très difficiles, il y avait peu d'espace, l'enseignant ne m'accordait presque aucune attention. C'était un retour en arrière complet, c'était comme de se retrouver au XVIIe siècle. Les classes étaient bondées, je me suis plusieurs fois disputée avec d'autres étudiants parce que j'étais toujours le dernier à entrer en classe. Il dit par contre trouver ça, ce qui explique qu'il est celui qui a le plus aimé cette expérience, relativement exotique, et que finalement le fait que le prof ne s'intéresse pas à lui lui convenait plutôt bien. D'autres artistes seront beaucoup, beaucoup plus durs dans leur critique de l'École des Beaux-Arts. En fait, et cette critique, on peut dire qu'elle est fondée parce que ça, on en a des preuves, notamment par des courriers, entre l'administration du GI Bill et l'École des Beaux-Arts. On s'aperçoit que la plupart de ces vétérans s'inscrivent à l'École des Beaux-Arts et à d'autres écoles pour toucher le GI Bill et ne vont pas suivre les cours. Deuxième critique, beaucoup plus dure en fait sur Paris, plusieurs artistes se plaignent de la vie artistique parisienne, des rencontres que l'on peut y faire ou surtout que l'on ne peut pas y faire. Pour résumer, c'est une forme d'ennui qui semble transparaître. Le plus révélateur de ces critiques, c'est certainement Kenneth Nolan, qui va rentrer très tôt, hein, il y reste juste un an, et qui a peu après, en fait, c'est dans une interview postérieure, hein, bien postérieure, en fait, qui dit en résumé que finalement, pour expliquer son retour, qu'il a pris conscience au bout d'un an qu'il ne se passait pas grand-chose à Paris et qu'il se passait surtout beaucoup plus de choses aux États-Unis dans le domaine artistique, pour expliquer donc son retour. Ces critiques, on les retrouve plus problématiques pour l'expérience, la vision qu'on peut avoir de l'expérience parisienne chez des artistes qui ont séjourné plus longtemps et dont on pourrait se dire qu'ils ont noué plus de contacts avec la scène artistique parisienne. On voit en fait, on observe un rejet des influences parisiennes et surtout de certaines influences parisiennes, à commencer par Picasso. Je vais pas revenir sur un exemple parce qu'il a déjà été développé beaucoup par Éric de Chassé, celui d'Ellsworth Kelly, qui a pendant longtemps été, alors il ne l'a pas nié, mais il a été extrêmement réticent à reconnaître, hein, quasiment jusqu'à aujourd'hui, l'impact du séjour parisien, notamment à évoquer toute idée d'influence ou à reconnaître toute idée d'influence de l'œuvre de Matisse sur son œuvre, ou, là c'est toujours nié à ma connaissance, de Picasso sur son propre travail. Et particulièrement à la figure de Picasso semble rejeter, on a d'autres exemples d'artistes devenus moins célèbres, hein, qu'Ellsworth Kelly, qui pourtant, clairement, quand ils arrivent à Paris à la fin des années 40, s'inspirent du cubisme et dans les quelques cas où on peut voir hein, des reproductions de ce qu'ils font des choses, des tableaux qui se placent dans la veine de Picasso ou au moins du cubisme. Autre exemple hein, de ce rejet des influences, on pourrait prendre l'exemple donc, plus tardif d'artistes cette fois figuratifs, Nancy Spero et Leon Golub, qui vont venir à la fin des années 50, qui ont donné plusieurs interviews dans lesquelles ils ont pu être interrogés sur leur expérience parisienne. Ces entretiens sont extrêmement frustrants, en tout cas pour moi, parce qu'ils ne disent rien, à part que oui, ils ont voulu venir à Paris et qu'ils y ont eu très peu de contacts, mais que c'était une volonté d'internationaliser, que New York n'était pas prêt à les accueillir. On retrouve très peu d'éléments sur finalement, sans parler d'amitié, d'influence, de contacts qu'ils auraient pu se faire. Je précise, les deux sont exposés. Et pour Nancy Spero, il s'agit de ses premières expositions, qui ont lieu à Paris. Donc il y a bien quand même forcément des contacts. En fait, toutes ces critiques, elles apparaissent dans des entretiens, des interviews données à la presse. À leur retour, c'est souvent assez longtemps après le séjour à Paris. Donc il y a peut-être un effet de distance où finalement le séjour à Paris à 10, 20, des fois ans de distance après une carrière beaucoup plus fournie apparaît comme dérisoire à ces artistes, sans vouloir vraiment critiquer Paris pour critiquer Paris. Mais toutes ces critiques hein, présentent en fait cette expérience parisienne comme une sorte de retraite un peu hors sol avec le minimum de contacts avec les artistes particulièrement parisiens. Il faut pour comprendre hein, ce rejet, rappeler qu'à l'époque où ils sont présents, et surtout pendant cette première moitié des années 50, les critiques en fait, des deux bords, américains et français, se livrent à une véritable guerre des labels. Les critiques parisiens essayant de défendre certains artistes américains en jouant finalement sur des stéréotypes nationaux qu'on va retrouver chez les critiques américains, mais interprétés de façon différente, pour que ce soit peut-être plus clair, juste un exemple, celui de John Levy, qui fait partie des artistes abstraits américains, qui va réussir à s'intégrer à Paris. Il est présenté, comme d'autres, comme Bernard Charles notamment, comme le plus français des artistes américains de la Nouvelle École de Paris. C'est une citation de Pierre Descargues, ça, mais on trouve d'autres critiques qui font la même. Et donc, il est bien reconnu comme un artiste américain, ce qui veut dire pour un critique français qu'il a su garder une aisance, une désinvolture naturelle, supposée, je suppose, américaine, tout en l'alliant à des qualités françaises. Les qualités françaises qui reviennent sont une forme de rationalité, de raffinement. Donc on voit hein, vraiment une opposition des caractères. John Levy, finalement, arrive à être un bon artiste parce qu'il allie émotivité, qui vient certainement de son côté américain, et rationalisme, spontanéité et préméditation à la fin de son séjour parisien. Ceci est vu comme quelque chose évidemment de positif pour le critique français qui analyse ainsi son parcours, mais c'est extrêmement dangereux pour un artiste comme Levy ou comme Bernard Charles, parce qu'interpréter par les critiques américains. Cela, c'est une forme de reconnaissance de l'européanisation ou de la francisation, de la parisianisation de son œuvre, synonyme aux yeux des Américains, en fait, d'un affaiblissement de ses caractères ou de ce caractère supposé américain. Ce qui explique, donc, je ne suis pas dans le bon sens, les stratégies donc, de réécriture biographique. Au retour, hein, cette fois. Donc, au retour, les artistes expatriés et particulièrement les peintres abstraits américains qui sont liés à cette, qu'on présente souvent comme étant liés à une deuxième génération de l'expressionnisme abstrait, qui rendent peut-être, ça explique hein, une partie des critiques qui leur sont adressées ou de leurs difficultés surtout à leur retour à se faire reconnaître aux États-Unis. Ils arrivent à un moment où finalement, en simplifiant, l'expressionnisme abstrait commence doucement à être remplacé par d'autres nouvelles avant-gardes et leur art semble complètement décalé. On a d'autres exemples, hein, pas que chez les abstraits, mais ceux qui ont le plus de difficultés à se réinsérer sont ceux dont l'art finalement apparaît comme vraiment décalé, comme s'il n'avait pas suivi les évolutions de la scène artistique américaine. On pourrait dire que c'est cette forme hein, de rejet de ceux qui ne sont pas dans les mouvances principales. Les artistes américains restés sur place, certains vont aussi les connaître. On peut penser, je sais pas, à des qui restent dans une tendance abstraite géométrique, par exemple. Mais pour ceux qui ont été expatriés au Paris, il y a un reproche supplémentaire qui leur est fait, celui de pratiquer une forme d'art jugée obsolète, de peu d'intérêt, mais surtout étrangère, parce que parisienne. D'où l'importance de ces réécritures. J'en donnerai donc trois exemples qui illustrent, à mon sens, différentes stratégies. Le premier, le plus connu certainement, c'est celui de Sam Francis, dont on voit clairement une américanisation hein, du parcours par les critiques. Les premiers à tenter cette américanisation, en fait, c'est les Européens eux-mêmes, mais pas des Français. Arnold Rüdlinger est le premier à le faire. Donc, il est à l'époque dirigeant de la Kunsthalle de Berne. Et il va chercher, donc il soutient, il devient un des principaux soutiens de Sam Francis en Europe. Et il va le présenter de plus en plus, à partir de la deuxième moitié des années 50, comme un artiste typiquement américain, finalement l'ambassadeur de la nouvelle peinture américaine aux États-Unis. Il reconnaît des influences parisiennes dans le travail de Sam Francis, essentiellement l'influence de Monet, mais il s'attache à le présenter comme un artiste américain. Pour vous en donner un exemple, voilà l'introduction qu'il rédige donc en 1958 pour une exposition, pour un catalogue d'une exposition collective donc qui rassemble Sam Francis, Shirley Jaffe et Kimber Smith au Centre culturel américain de Paris. Sam Francis, écrit-il, Shirley Jaffe et Kimber Smith possèdent, comme leurs amis de New York, ce sentiment typique et totalement non-européen de l'espace qui renonce à un centre, à une perspective et à des proportions harmonieuses. Leurs tableaux si excentriques commencent quelque part et finissent quelque part, restant en suspens, transcendant au-delà de la limite imposée par la toile. Quelque chose de plus grand, de plus universel fait son apparition en eux. Ce sont les bribes de l'expérience d'un continent géant qui ne connaît pas de milieu, qui n'a pas de frontières visibles. On voit bien là la volonté de le rattacher, hein, et en fait il va surtout le faire pour Sam Francis, plus que pour les deux autres cités, à une expérience des États-Unis définie à travers le paysage américain, le territoire même des États-Unis. À la même période, la galerie... vous montrer. La galerie Martha Jackson, dont vous avez là le dépliant pour la première exposition de Sam Francis, va organiser la promotion de son œuvre aux États-Unis, donc tirée également vers cette américanisation, l'ancrage du peintre, pourtant depuis plus de 5 ans en France, dans une expérience de la terre américaine, on pourrait dire. Cette tentative d'américanisation va être dans un second temps reprise par les critiques américains, en fait par quelques critiques américains. Un exemple, Priscilla Cole, donc dans un article de 62, dénonce le peu de reconnaissance qu'obtient Sam Francis aux États-Unis. Elle y voit en fait l'expression, peut-être à raison, de préjugés à l'encontre des artistes américains expatriés en Europe et tente d'imposer une nouvelle lecture de son œuvre. Pour cela, elle s'oppose à la lecture qu'en a fait notamment Alfred Barr, qui parlait de Sam Francis comme d'un expatrié. Hein, c'est Alfred Barr qui utilise ce terme. Priscilla Colt, un peu à la manière de Rüdlinger, à l'inverse, va souligner l'ancrage de Sam Francis dans l'histoire de l'art américain et le classe d'entrée de jeu dans des peintres de l'expressionnisme abstrait. On peut toutefois ajouter que finalement, le fait qu'en 62, Priscilla Colt soit toujours en train de dénoncer le manque de reconnaissance de San Francisco marque aussi l'échec finalement relatif de cette stratégie d'américanisation. Deuxième exemple, excusez-moi, je suis passée. Ouais. L'exemple de Laurence Calcagno, donc déjà cité, hein, j'irai plus rapidement, donc, qui va aussi hein, américaniser en effaçant l'impact de Paris, donc américaniser son parcours. Il est exposé, je vous l'ai dit, Alex, donc vous avez là le texte principal pour vous donner une idée des peintures qu'il réalise à l'époque où il est exposé. Il est exposé donc à la galerie Martha Jackson en 1955. Dans les archives en fait, très fournies de la galerie Martha Jackson, on arrive à percevoir hein, les raisons de cette réécriture. Notamment, j'ai pu retrouver une lettre hein, d'un autre peintre, Ernest Briggs, peintre expressionniste abstrait également, qui accuse Laurence Calcagno, donc qui vient tout juste de rentrer d'exil, d'avoir subi un véritable lavage de cerveau en Europe, ce qui l'aurait rendu incapable de comprendre les avancées artistiques de son pays. Ce qui explique la stratégie hein, d'effaçage, de gommage de Paris. Le catalogue de l'exposition est assez sobre. Il réaffirme en fait l'identité américaine de Laurence Calcagno. Alors, le passage par Paris n'est pas du tout nié, mais le texte principal est signé donc, d'un Suédois, Lasse Söderberg. La seule mention de Paris, bah, c'est la date, Paris, mai 1955, donc là où Lasse Söderberg a rédigé le texte. Tout le reste parle du rapport de Calcagno à la région de Californie dont il est originaire et à ce qu'il appelle un paysage intérieur du Pacifique. Donc le ramène de façon similaire à ce qu'on a vu pour San Francisco au continent, au paysage américain. Dernière stratégie qui apparaît en fait plus tardivement dans les années 60 essentiellement, on va voir une autre façon en fait de gommer à Paris, une autre façon de gommer l'exil, c'est la reconnaissance en fait, du passage par Paris, mais avec la volonté de n'en faire qu'un passage dans la biographie de l'exil et de présenter non plus l'artiste comme un ancien expatrié, mais comme finalement ce que j'ai appelé, c'est un terme qu'on trouve dans un des catalogues, un vagabond international, donc un artiste complètement international. Deux exemples, je passerai sur le premier, ils sont en fait très similaires. Donc Al Copley et Bernard Charles, tous deux exposés au Stedelijk Museum. Le deuxième est plus intéressant peut-être. Bernard Charles va être hein, ainsi américanisé, mais ce sera le cas notamment dans une exposition à la New York University en 1964. Il est présenté comme véritablement, c'est l'expression hein, du catalogue, un peintre voyageur, un vagabond international. La stratégie là est assez claire, c'est jouer aussi sur la volonté d'expansion de l'art américain, pour montrer que ces artistes participent, et c'est le cas aussi dans la façon dont va être présenté Al Copley à partir des années 60, participent à la diffusion de l'art américain. Donc ils n'en sont plus tellement expatriés, ils sont ambassadeurs de l'art américain, et quand ils reviennent, c'est ce que Kenneth Sawyer soulignera à propos d'Al Copley, ils sont restés de vrais Américains. Il faut juste noter, petit bémol, pour Al Copley qu'il est d'origine allemande et qu'il a immigré aux États-Unis dans les années 30. Donc c'est un peu paradoxal de le présenter comme un parfait américain. En conclusion, très rapide, il me semble donc, que ces quelques cas de réécriture biographique posent plutôt plusieurs questions. La question finalement de l'écriture de biographique des artistes et la façon dont finalement elle s'internationalise au tournant des années 50. La question évidemment du nationalisme américain qui et savoir dans quelle mesure vraiment elle explique le rejet, le gommage de l'expérience parisienne. Plus fondamentale, il me semble, pour nous historiens aussi, ces réécritures posent la question de l'utilisation des labels nationaux dans la sphère artistique qui obéissent, j'espère l'avoir montré, en fait, à des stratégies de différents acteurs qui n'ont pas forcément exactement les mêmes buts. Et elles montrent aussi finalement la complexité qu'il y a à poser des étiquettes nationales dans un contexte d'essor de formes d'art internationales ou transnationales. Je vous remercie.